France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le combat de Rachel Carson, lanceuse d'alerte contre les biocides. En 1962, cette biologiste américaine publie un livre qui fait l'effet d'une bombe. Dans Printemps silencieux, c'est le titre, elle alerte sur l'usage massif des produits chimiques imaginés par l'être humain pour tuer les insectes. Mais non content de les exterminer, ils détruisent aussi les oiseaux et les autres petits animaux jusqu'à empoisonner les grands que nous sommes. Rachel Carson est alors une autrice reconnue, admirée de ses compatriotes américains. Dans les années 50, elle a écrit 3 livres, mi-scientifiques, mi-poétiques, sur les mers et les océans, qui deviennent des best-sellers. Avec Printemps silencieux, forte de ce succès, elle va plus loin et dénonce l'industrie chimique et ses effets délétères. Elle est considérée comme la première lanceuse d'alerte environnementale, celle qui a brandi un panneau stop face à la modernité et ses effets indésirables. Notre invitée aujourd'hui, Isabelle Colomba, écrivaine et journaliste. Elle est l'autrice d'une biographie de Rachel Carson, intitulée « Rachel Carson, le monde doit savoir », livre publié aux éditions Albin Michel. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sylvie Fagnard, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Nous sommes en 1962. Rachel Carson repousse la liasse de feuilles dactylographiées qu'elle tient entre les mains. Il est déjà tard, même si la lumière du jour s'étire en ce début de printemps dans le Maryland. Rachel Carson a 55 ans, et c'est une célébrité aux États-Unis. Mais elle se sent déjà si fatiguée. Le cancer ronge son corps. Mais malgré les douleurs et son affaiblissement, elle doit mettre le point final à son œuvre, celle que méritent ces millions d'électrices et lecteurs à travers le monde qui doivent, à leur tour, tout savoir. Alors, elle mobilise à nouveau toute sa concentration et reprend la lecture des épreuves de son livre à paraître. Elle se replonge dans l'introduction de son écrit.
Il était une fois une petite ville au cœur de l'Amérique où toute vie semblait vivre en harmonie avec ce qui l'entourait. Cette ville était au centre d'un damier de fermes prospères, avec des champs de céréales et de coteaux de vergers, où au printemps, des nuages blancs de fleurs flottaient au-dessus des champs verts. Et puis, un mal étrange s'insinua dans le pays et tout commença à changer. Un mauvais sort s'était installé dans la communauté, de mystérieuses maladies décimèrent les basses-cours, le gros bétail et les moutons dépérirent et moururent. Partout s'étendit l'ombre de la mort. Il y avait un étrange silence dans l'air. Les oiseaux, par exemple, où étaient-ils passés? Ce fut un printemps sans voix. À l'aube qui résonnait naguère du cœur des grives, des colombes, des geais, des roitelets et de 100 autres chanteurs, plus un son ne se faisait désormais entendre. Le silence régnait sur les champs, les bois et les marais.
Un sourire satisfait sur ses lèvres fines, Rachel Carson relit ses lignes, dont elle a minutieusement choisi les mots. Des mots qui donnent immédiatement tout son sens au titre de son nouveau livre, intitulé « Printemps silencieux ». Dans les pages qui suivent, elle déroule sa démonstration, résultat de 10 années de travail acharné, de compulsions d'études scientifiques, d'observations sur le terrain et d'échanges avec les spécialistes. Un véritable travail de bénédictine pour documenter ce que cette amoureuse de la nature perçoit depuis plusieurs décennies. Le vivant se meurt et c'est l'être humain qui en est responsable. L'être humain qui déverse par millions de litres depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale des produits chimiques dans les airs, dans les terres et dans les eaux. Pour préserver les céréales, les fruits et les légumes, et pour se débarrasser de tous ces nuisibles, mouches, moustiques, rongeurs, qui gâchent la vie des honnêtes citoyens. À la sortie de son livre, Rachel Carson explique les conséquences de l'arrivée de ces poisons dans la vie quotidienne.
Nous sommes donc entrés dans l'âge du poison. Et le premier venu peut sans explication acheter des substances beaucoup plus dangereuses que les produits pour lesquels le pharmacien exige une ordonnance médicale. Dans les fleuves, les lacs ou les réservoirs, ou tout bonnement les verres de nos salles à manger, se mélangent des matières qu'aucun chimiste responsable ne songerait à associer dans son laboratoire. Et de soi-disant tolérances permettent que des résidus de ces produits chimiques finissent dans nos assiettes. La maladie et la mort de fermiers, pilotes et autres fortement exposés aux insecticides sont tragiques et inacceptables.
En 1962, au moment de l'apparition de Printemps silencieux, cela fait 10 ans que Rachel Carson travaille sur son livre des poisons. Pour suivre le fil de cette préoccupation et comprendre comment cette femme est devenue la première à lancer l'alerte sur la destruction de l'environnement et de l'humanité, il faut remonter plus loin encore. Autrement dit, à sa naissance, dans une ferme minuscule au cœur d'un hameau de la bourgade de Springdale, en Pennsylvanie. C'est au matin du 27 mai 1907 que Rachel voit le jour. Elle est la troisième enfant de Maria, fille d'un pasteur presbytérien, et de Robert Carson, fils d'immigrés d'Irlande du Nord. Leur fermette, si nichée en bordure du massif des Appalaches, est flanquée d'un immense terrain large de 25 hectares. Mais les Carson ne vivent pas de leur terre. Robert parcourt les routes, vendeur itinérant d'assurance. Et comme tout le monde, dans ce cœur battant de l'Amérique du début du XXe siècle, il veut devenir riche. Son plan est simple, mais, pense-t-il, imparable. Il s'est endetté pour acquérir ce bout de nature sauvage, idéalement situé à une trentaine de kilomètres de Pittsburgh, The City of Steel, la cité de l'acier qui enfle à vue d'œil. Dans quelques temps, il pourra donc vendre très cher ses hectares à la découpe et rejoindre le cercle des self-made men, comme Andrew Carnegie, le magnat de la sidérurgie, sorti, tout comme Robert, d'un quartier populaire de Pittsburgh. Mais en attendant l'expansion de la ville et la fortune, la famille Carson baigne dans une immensité de verdure où les papillons, les rongeurs et les cerfs sont chez eux. Tout ce que Maria veut pour ses enfants, inspiré par ses lectures d'auteurs naturalistes très en vogue à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Et c'est le cas d'Henri David Thoreau, ermite volontaire au milieu des bois, qui raconte dans Walden, paru en 1854, son expérience d'animal parmi les autres animaux.
Je suis parti vivre dans les bois parce que je voulais vivre en toute intentionnalité, me confronter aux données essentielles de la vie et voir si je ne pouvais apprendre ce qu'elles avaient à m'enseigner, plutôt que de constater, au moment de mourir, que je n'avais point vécu. Vivre est chose si précieuse. Je ne souhaitais pas vivre ce qui n'était pas de la vie. Et je ne souhaitais pas non plus m'exercer à la résignation, sauf en cas d'absolue nécessité. Je voulais vivre intensément et aspirer toute la moelle de la vie.
Vivre intensément, c'est bien l'intention de la petite Rachel. Mais au début du XXe siècle, ce n'est pas ce que la société projette pour les filles. Mais c'est sans compter sur la détermination de Maria, qui veut que sa petite dernière poursuive ses études le plus longtemps possible. Et elle a un dessein secret, faire de Rachel une grande écrivaine, comme elle aurait voulu être une grande musicienne. Et ça tombe bien, Rachel sort majeure de promotion de son lycée. Elle intègre une université pour jeunes filles, à Pittsburgh, et impressionne ses professeurs par la beauté des textes qu'elle rédige et la rigueur de son esprit dans les matières scientifiques. Au grand dépit de sa professeure de littérature, elle opte pour la biologie. Et master en poche, c'est master en poche qu'elle achève son parcours académique. Elle n'ira pas plus loin, malgré son désir de mener un doctorat. Elle sait que son genre lui interdit de songer à une carrière universitaire. Et puis Rachel doit trouver un travail tout de suite. Elle refuse tout net l'option du mariage et elle doit supporter la charge de toute sa famille car ses parents sont ruinés. Pour rembourser leurs dettes contractées pour la scolarité de Rachel, ils vendent leur terrain dont la valeur n'a jamais grimpé. Sa sœur, malade, divorcée, mère de 2 enfants, ne peut pas travailler. Son frère vivote de petits boulots en 7 ans de grande dépression. Rachel n'est qu'une femme, concept qui fait autorité à l'époque. Mais au moins elle a un diplôme. Et le sort lui sourit quand on lui propose, en octobre 1935, une mission qui semble taillée à sa mesure. le Bureau des pêches, une administration fédérale, recherche en effet une plume, pourvue de solides connaissances en biologie marine, pour écrire une série radiophonique de vulgarisation scientifique sur les océans. Au cours de ses études, la mer est devenue la passion de Rachel, parce qu'elle est à l'origine de toute vie, comme elle le raconte plus tard.
Oui, la mer est un lieu où l'on ressent l'ancienneté de la Terre. Elle semble relier la nuit des temps au présent. La surface des océans était probablement semblable il y a 1 milliard d'années, quand y grouillaient les premières formes de vie. Tous ces arbres, les vivants et les morts, arboraient le gris argenté des mousses et des lichens. Et certains des animaux pris dans les flaques de marée ont dû être les premiers pionniers qui ont foulé la terre ferme. La mer a ceci de magique qu'il y arrive encore des prodiges, comme il y a des millions d'années. On y a observé des centaines de petits animaux marins qui se prêtaient à une expérience de taille. La transition d'une vie marine à une vie terrestre.
À la fin des années 30, Rachel Carson a la trentaine. Et elle trime pour subvenir aux besoins de sa mère, de sa sœur et de ses nièces. Mais elle vit son rêve, elle écrit. Elle finit par être embauchée au Bureau des pêches, comme assistante biologiste, tout en assumant toujours la rédaction des petits livrets à destination du grand public. Encouragée par son supérieur, elle propose l'un de ses textes à l'Atlantic Monthly, une prestigieuse revue littéraire. Son titre, On the Sea, sous la mer, en français. Et voilà qu'elle attire l'attention d'une maison d'édition new-yorkaise, Simon & Schuster, qui veut la publier, mais sans lui accorder un copec d'avance. Alors, Rachel écrit le jour pour le Bureau des pêches, et la nuit pour son futur premier ouvrage, Under the Sea Wind. À sa publication le 7 novembre 1941, le livre fait l'objet d'élogieuses critiques. Le New York Times le qualifie de beau et hors du commun. Mais il ne trouve pas son public. Il faut dire qu'un mois après sa sortie, le 7 décembre 1941, les États-Unis entrent en guerre après l'attaque par le Japon de leur base de Pearl Harbor. Les Américains n'ont pas le cœur à la poésie marine. Seuls 1500 exemplaires d'Under the Sea Wind se vendent. Bien trop peu pour offrir du répit financier à Rachel. Alors, elle poursuit sa double vie de fonctionnaire et d'écrivaine. Et puis, une autre maison d'édition lui commande un nouveau livre. Elle n'en finit pas de creuser son sujet, la mer. Dans The Sea Around Us, cette mer qui nous entoure, en français, et qui sortira en 1951, elle retrace la très longue histoire de la vie dans et autour de l'océan, mêlant exactitude des faits scientifiques et beauté du verbe.
Pour la première fois depuis le début du printemps, on entend sur les prairies planctoniques de l'Atlantique Nord le cri saccadé des phalaropes, petits oiseaux bruns, qui tournent dans tous les sens, touchant l'eau et s'en éloignant aussitôt. Ils ont fait leur nid dans les toundras arctiques, élevé leurs jeunes, et voilà qu'ils recommencent à revenir sur la mer. La plupart, cependant, continueront à survoler l'océan du large, loin des terres, vers le sud. Ils passeront l'équateur et arriveront au-dessus de l'Atlantique Sud et suivront les grandes baleines qui les conduiront aux lieux abondants en plancton dont s'engraissent ces étranges petits oiseaux.
Cette fois, le grand public est emporté. Les extraits publiés en avant-première dans le New Yorker en juin 51 provoquent des courriers enflammés à la rédaction. Un soir, quand elle rentre chez elle, Rachel trouve sa mère dans un état d'excitation extrême. Plus tôt dans la journée, Alice Roosevelt Longworth a appelé pour dire tout le bien qu'elle pensait de ses bonnes feuilles. C'est la fille du président Roosevelt, s'il vous plaît. Fille de celui qui, le premier à la Maison-Blanche, a édicté des normes de protection de la nature. C'est aussi une mondaine, Rachel, habituée qu'elle est du microcosme politique à Washington. Elle l'a assuré à la mère de Rachel, tout le monde en ville ne parle plus que de son livre. The Sea Around Us reste en effet en tête des classements de vente de livres du New York Times pendant 86 semaines. Et les prix qui vont avec, jusqu'au National Book Award, le plus prestigieux de la littérature américaine. Le soir de sa réception en janvier 52, l'écrivaine peut laisser éclater son bonheur d'être parvenue à mêler ses deux passions, l'écriture et la nature. Devant tout ce que l'Amérique compte alors d'intellectuel, elle déclare « Il ne peut y avoir de littérature séparée de la science. S'il y a de la poésie dans mon livre sur la mer, ce n'est pas parce que je l'ai délibérément mise là, mais parce que personne ne pourrait écrire de façon véridique sur la mer sans y mettre de la poésie. »
Pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Pay farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Rachel Carson, première lanceuse d'alerte sur l'écologie.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Avec le succès de son livre, Cette mer qui nous entoure, à 45 ans, Rachel Carson est enfin à l'abri de la pauvreté qu'elle tente de fuir depuis son enfance. En 1952, elle démissionne du bureau des pêches et se consacre enfin à temps plein à l'écriture. Forte de sa légitimité publique, elle s'attelle à une enquête de longue haleine sur un sujet qui lui ronge le cœur, depuis sa découverte de la biologie à l'université pour jeunes filles de Pittsburgh. Pittsburgh, justement, la cité de l'acier, surnommée aussi Smoky City. Une ville où l'on n'ouvre pas les fenêtres, au risque de voir s'insinuer dans son intérieur une poussière noire et épaisse. Des microparticules venues des industries sidérurgiques qui s'immiscent aussi dans les corps, empoisonnant la santé de tous ses habitants.
It begins with the war-borne development of DDT. This diabolical weapon of modern science saved millions of humans, but killed billions of insects. Man, with this newly discovered force and a small plan.
Et c'est bien à cela que Rachel Carson veut s'attaquer. Dans son viseur, il y a en particulier toute la famille des insecticides, qu'elle appelle des biocides, parce qu'ils tuent toute vie sans distinction. Et le plus célèbre d'entre eux s'appelle le DDT, qualifié aujourd'hui avec toute l'hypocrisie liée aux activités commerciales de produits phytosanitaires. Phyto peut-être, sanitaire en passera. Car la guerre menée aux toutes petites bêtes a des conséquences que Rachel a pu observer dans le hameau de son enfance. Les insectes ne sont pas les seuls à avoir disparu. À leur suite, les batraciens et les oiseaux se font rares. Et pour cause. À la fin des années 40, on met du DDT partout. Des avions survolent des forêts entières du Midwest et y déversent des tonnes de produits pour éliminer les parasites. Les immenses champs de monoculture subissent le même traitement. Le DDT entre aussi dans les chaumières. Et des publicités enthousiastes vantent aux ménagères son usage contre tout ce qui a 6 ou 8 pattes. En En 1948, le découvreur de la molécule, le chimiste suisse Paul Hermann, Müller, reçoit le prix Nobel de médecine. Ce qui permet aux industriels qui produisent le DDT, tout comme les autorités, d'en balayer la dangerosité. La preuve avec ce petit film réalisé en 1947 par les autorités britanniques pour documenter une campagne contre la malaria dans l'une de ses colonies, le Kenya. Sur les images, des blancs, chaussettes immaculées tirées jusqu'aux genoux et chapeaux d'aventurier sur la tête, font face à des rangées d'hommes noirs assis par terre. Opération le DDT, c'est bon pour la santé. Si, si, vous pouvez même en manger.
L'entomologiste demande un bol de porridge qui est pulvérisé avec la solution à la vue de tous. Il mange maintenant plusieurs cuillerées du mélange pour montrer que la nourriture contaminée est inoffensive. Même cela ne parvient pas à convaincre le public. Erup Kipko est le porte-parole en chef et énonce ses objections avec éloquence. Il dit que le nouveau médicament est un mauvais poison qui peut exterminer toute la tribu.
Et il a bien raison. D'ailleurs, dès le milieu des années 40, certains scientifiques pensent comme lui. Alors, des équipes mettent en place des protocoles de recherche pour mesurer les effets du DDT. Parmi ces chercheurs, des collègues de Rachel Carson, au bureau des pêches. Pour mettre en lumière leurs résultats, l'écrivaine militante propose au Reader's Digest, dès 1945, un article sur les ravages causés par le DDT. Refusé. Pas question, au sortir de la guerre, d'effrayer les Américains qui aspirent à la quiétude. Quoi qu'il en soit, depuis la publication de Cette mer qui nous entoure, Rachel Carson est une autrice à succès, multiprimée. Et elle n'a pas besoin qu'une revue la soutienne pour mener sa charge contre les pesticides. Néanmoins, elle sait aussi à qui elle s'attaque. Le procès qu'elle instruit doit être minutieux, bordé d'éléments de preuve et de confirmation des meilleurs chercheurs. C'est aussi une enquête sur le terrain qu'elle mène. De tous les coins des États-Unis, ses lecteurs lui font part de leurs inquiétudes sur leur environnement. Beaucoup s'alarment de l'emploi démesuré des pesticides. En 1957, Rachel suit passionnément le combat d'habitants de Long Island qui refusent qu'on épande du DDT autour de leur maison. Statistiques à l'appui que son éditeur prend le soin de faire vérifier plusieurs fois, Rachel Carson démontre le lien entre la baisse du nombre d'oiseaux et la destruction des insectes. De sa plume toujours imagée mais sans fioritures, elle explique à ses contemporains comment la nature forme un grand tout, dont les êtres humains ne sont qu'une part. S'il casse ces chaînes qui relient le vivant au vivant, ce qu'elle appelle les liaisons vitales à la vie, il court à leur perte, et elle le dit clairement dans Printemps silencieux.
Hier encore, l'humanité vivait dans la frayeur des fléaux traditionnels. La variole, le choléra, la peste. Aujourd'hui, nous ne craignons plus ces virus qui ont naguère englouti des peuples. L'hygiène, l'amélioration du niveau de vie, les produits pharmaceutiques nouveaux nous permettent de maîtriser les maladies infectieuses. C'est un péril d'une autre sorte qui rôde maintenant dans notre entourage. Un danger que nous avons introduit nous-mêmes au fil de l'évolution de la vie moderne. Les nouveaux problèmes de santé environnementale sont multiples, créés par les radiations sous toutes leurs formes et nés du flot incessant des produits chimiques qui imprègnent le monde. Ces menaces encore obscures et sans forme sont d'autant plus effrayantes qu'il est impossible de les définir. Car on ne peut prédire l'effet que produiront sur l'homme des expositions prolongées à l'action d'agents physiques et chimiques étrangers à son expérience biologique.
Dès sa sortie, le 27 septembre 62, Printemps silencieux est un succès. Il s'en vendra 500 000 exemplaires en quelques mois. Mais l'industrie chimique contre-attaque. Sur les plateaux de télé, son porte-parole, le docteur Robert White Stevens, accuse Rachel Carson de vouloir revenir à l'âge de pierre, quand vermine et maladie ruinent l'humanité. Et, sans donner exemple, il décrédibilise son travail.
Les principales allégations du livre de Mademoiselle Rachel Carson sont de grossières distorsions de la réalité. Complètement dénuées de preuves scientifiques et d'expériences pratiques du terrain. Insinuer que les insecticides sont en fait des biocides qui détruisent toute vie est une absurdité, étant donné qu'en l'absence d'activité biologique sélective, ces mélanges seraient totalement inutiles.
Quelques semaines plus tard, la firme Monsanto, premier fabricant de DDT aux États-Unis, publie dans son magazine interne un texte titré « The Desolate Year », abondamment relayé auprès des journalistes. Ce texte, au style parodiant le premier chapitre de « Printemps silencieux », dépeint une Amérique envahie par les punaises. Et ça dit « Elles étaient partout, invisibles, inaudibles, incroyablement universelles. Au-dessus ou en dessous de chaque lopin de terre, de chaque jardin, de chaque hectare, et comptaient états et régions sur toute l'étendue des États-Unis. » Cette fable se termine dans l'apocalypse d'une prise de pouvoir d'insectes femelles monstrueuses se passant des mâles pour se reproduire. L'angoisse de femelles au pouvoir n'est pas hasard, bien sûr. Comme on ne peut l'attaquer sur le fond de son travail, c'est son genre qui reprochait à Rachel Carson. Une vieille fille, probablement lesbienne, évidemment hystérique. Mais Printemps silencieux ne fait pas seulement trembler l'industrie, il réveille les politiques. Jusqu'au plus haut niveau, jusqu'au président Kennedy soi-même.
Monsieur le Président, les scientifiques semblent de plus en plus préoccupés par la possibilité d'effets secondaires dangereux à long terme résultant de l'utilisation généralisée du DDT et d'autres pesticides. Avez-vous envisagé de demander au ministère de l'Agriculture ou au service de santé publique d'examiner cette question de plus près?
Oui, et je sais qu'ils le font déjà. Je pense en particulier, bien sûr, depuis le livre de Mademoiselle Carson, mais ils examinent la question.
John Kennedy répond à cette question d'un journaliste alors que Printemps silencieux vient à peine de paraître. Et quelques mois plus tard, en 63, il annonce la création d'une commission sur l'usage des pesticides. Au cours de cette même année, Rachel Carson est auditionnée par le Sénat. De sa voix calme et déterminée, elle redit l'urgence de réguler l'utilisation des pesticides. Mais elle ne peut pas porter son combat plus loin, car le cancer finit par la vaincre. Elle s'éteint le 14 avril 1964. Elle ne verra pas la vague qu'elle a soulevée. Printemps silencieux passe les frontières. En France, les éditions Plomb le publient dès l'année 63. C'est le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle, le grand résistant Roger M., qui en signe la préface. On arrête les gangsters, on tire sur les auteurs de hold-up, on guillotine les assassins, on fusille les despotes, ou prétendus tels, mais on ne met pas en prison les empoisonneurs publics, distillant chaque jour les produits que la chimie de synthèse livre à leur profit et à leurs imprudences, dit-il. Face à cette indignation qui monte, les responsables politiques sont sommés d'agir. D'autant que d'autres catastrophes, moins visibles, marquent tout de même l'opinion. En 69, une plateforme pétrolière au large de Santa Barbara explose. Les Américains et le monde entier assistent à l'engluement des oiseaux marins, en direct, à la télé. L'année suivante, le président Nixon met sur pied une nouvelle administration, l'Agence fédérale de l'environnement. Et en France, un ministère du même nom est créé en janvier 1971. Quelques semaines plus tard, le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas prend une décision concrète pour protéger l'environnement.
C'est maintenant décidé. Le DDT est désormais interdit pour le traitement de certains arbres fruitiers en France.
Oui, c'est M. Bernard Pons, le secrétaire d'État à l'agriculture, qui vient de signer son arrêt de mort. L'interdiction concerne non seulement les arbres fruitiers, mais aussi la pomme de terre, le colza et la vigne. Cette décision fait suite à des recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de limiter l'emploi de ce produit à la lutte contre les responsables de grandes maladies telles que la malaria et le typhus.
Aux États-Unis, cette interdiction tombe en 1972. Il faudra encore attendre plusieurs décennies et l'année 2001 pour que 127 pays s'engagent dans la Convention de Stockholm à mettre au ban 12 molécules particulièrement néfastes. Ces molécules, les écologistes les appellent les 12 salopards. Parmi elles, on trouve le DDT, mais aussi la dioxine ou encore le chlordécone. Le chlordécone, cette molécule aussi ravageuse pour les insectes que pour les sols parce qu'elle est très résistante, est autorisée en 72, l'année qui suit l'interdiction du DDT. Sa dangerosité est pourtant largement documentée depuis le début des années 50. Et ce produit pourtant sera généreusement utilisé dans les plantations de bananes en Martinique et en Guadeloupe, avec la bénédiction des autorités françaises, avant son interdiction en 1993. Très tard, trop tard, on estime que 90% de la population adulte des Antilles françaises est contaminée. L'industrie chimique, elle, n'a pas disparu. D'autres produits miracles, indispensables sous peine de revenir à l'âge de pierre, comme ils disent, sont arrivés sur le marché. Des néonicotinoïdes, du fipronil et du glyphosate. Et les grandes firmes du secteur emploient toujours la même mauvaise foi qu'avec Rachel Carson. Leurs produits n'auraient aucune conséquence. C'est encore ce que plaident les avocats de Monsanto en avril dernier, lors du procès intenté à la famille Grataloup, qui tente de faire reconnaître la responsabilité du glyphosate dans les malformations dont souffre leur fils. Faute d'accord entre les 27 pays membres, le 16 novembre 2023, ce produit a été autorisé pour 10 années supplémentaires en Europe. Au début de cette année, les sénateurs ont tenté de réintroduire une autorisation des néonicotinoïdes pour les cultures de la betterave, interdite seulement 2 ans plus tôt. L'Assemblée nationale doit se prononcer à la fin de ce mois, mais les sénateurs ont déjà décidé la réintroduction dérogatoire d'un insecticide de la famille des néonicotinoïdes.
On parle encore en termes de conquête. On n'est toujours pas assez mûrs pour nous considérer comme une infime partie d'un univers vaste et incroyable. L'attitude de l'homme envers la nature est aujourd'hui d'une importance cruciale. Du simple fait qu'on a maintenant acquis un pouvoir funeste pour altérer et détruire la nature. Mais l'homme fait partie de la nature. Et sa guerre contre la nature est une guerre contre lui-même. Les pluies sont devenues un instrument pour faire tomber de l'atmosphère les produits mortels d'explosions atomiques. L'eau, qui est probablement la plus importante de nos ressources naturelles, est à présent utilisée et réutilisée avec une insouciance incroyable. Je pense vraiment que nous, dans cette génération, devons nous réconcilier avec la nature. Et nous sommes mis au défi, comme jamais auparavant, de prouver notre maturité et notre maîtrise. Pas de la nature, mais de nous-mêmes.
Résultat, en 40 ans, depuis la fin des années 80, la population générale des oiseaux a décliné de 40% en Europe. 60% même pour certaines espèces des milieux agricoles.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Consacré aujourd'hui à Rachel Carson, première lanceuse d'alerte sur les dangers des biocides, ce qu'elle appelle les biocides. Bonjour Isabelle Colomba.
Bonjour.
Vous êtes notre invitée, vous êtes écrivaine et journaliste, l'autrice d'une biographie de Rachel Carson, précisément, intitulée « Rachel Carson, le monde doit savoir », livre publié aux éditions Albin Michel. Vous avez écrit également pour les ados, sur le parcours de Rachel Carson, dans un livre chez Actes Sud Jeunesse, intitulé « Rachel Carson, non à la destruction de la nature ». Tout simplement. Pourquoi avez-vous envie de raconter la vie de cette femme, déjà ?
D'abord, j'ai mis du temps à m'intéresser à l'histoire de cette femme et à cette femme en tout particulièrement. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était les citoyens ordinaires qui se retrouvent dans des situations où ils sont obligés de s'engager pour la défense de l'environnement, parce que leurs conditions de vie, leurs conditions d'habitat, de travail, l'avenir de leurs enfants est en danger de destruction. Mmh. Et souvent, dans ce combat, ils se heurtent à des puissances très fortes, des gouvernements corrompus, et puis des multinationales. Et ce combat, ils le font au péril de leur vie. Et chaque année, on voit que ces gens qui sont devenus donc des activistes le payent. Vraiment, il y a des morts chaque année, de nombreux morts à travers la planète. Et pour moi, Rachel Carson, elle n'entrait pas dans cette catégorie de gens qui prenaient des risques. Et je pense que je me trompais, parce qu'à partir du moment où je me suis intéressée à elle, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez les marches pour le climat, on découvrait qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes, d'adolescentes parmi les manifestants. Elles étaient même une majorité. Et en fait, c'est là que le déclic s'est fait. C'est que je me suis dit, j'ai réfléchi, je collectais des informations, je me suis aperçue qu'en fait, les femmes avaient toujours été à l'origine de tous les combats pour la protection de l'environnement depuis l'origine. Et Rachel Carson, elle marque en fait ce passage où on prend conscience que les activités humaines ont un impact sur notre environnement, jusque dans notre jardin, dans notre maison. Mmh. Ce qui m'intéressait finalement chez elle, c'est qu'elle ne se contentait pas de dénoncer en alignant des chiffres, hein, comme on entend souvent à propos du climat, mais elle expliquait pourquoi les phénomènes se produisaient, quels étaient les liens, et surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les liens que nous, les êtres humains, on a avec tous les autres habitants, de la Terre. Et donc ça, je trouvais ça intéressant. Puis quand j'ai lu ses livres, et puis quand j'ai lu sa correspondance, qui est incroyable, avec son amie Dorothy, je me suis dit que cette rencontre que je faisais avec elle était fondamentale, elle était même fabuleuse et très inspirante pour les hommes et les femmes de 2025.
Et comment expliquez-vous que les femmes aient été à la pointe de ce combat ?
Les femmes, elles sont, c'est la vie très concrète, elles mettent des enfants au monde et quand elles s'aperçoivent que ces enfants tombent malades parce qu'il se passe des choses autour d'elles et qu'elles cherchent à savoir. Et donc, parce qu'elles sont aussi des observatrices, les premières femmes à s'être vraiment intéressées à ces questions-là, ce sont d'ailleurs des Américaines à la fin du 19e siècle qui se sont aperçues que l'industrialisation avait vraiment des conséquences sur l'environnement. Et donc, elles ont commencé à écrire, elles se sont manifestées, elles se sont engagées. Et d'ailleurs, ces femmes n'étaient pas seulement des, comme on dit, les détracteurs de Rachel Carson, des amoureuses des oiseaux. Elles étaient aussi très engagées pour, par exemple, s'attaquer à l'esclavage, pour réclamer le droit de vote pour les femmes. Donc, elles avaient une conscience comme ça de la vie en société, de leur rôle à jouer.
Les droits de l'homme sont portés par la femme, donc les droits
évidemment.
Humains. Donc, les droits humains. Bien. Alors, c'est d'autant plus méritoire ce combat que nous sommes quand même au début en 1962 et que la conscience écologique mondiale n'est pas éveillée comme elle l'est aujourd'hui.
Non, mais parce qu'on est aussi, il faut se rappeler ces années-là, on est dans des années où voilà, le progrès fait avancer les choses, on pense qu'on va vers le meilleur, et c'est pour ça que son livre provoque un choc très fort. Pour revenir, justement, ce sont les femmes, ces lectrices, qui vont vraiment s'emparer de ce livre, parce que, vous savez, dans les années 50, 60, on dit aux femmes, vous devez être des parfaites ménagères, parfaites mères de famille, donc chez vous, ça doit être impeccable. Combien d'entre nous ont vu leur grand-mère nettoyer, astiquer les maisons, voilà, oh, pas seulement à la cire. Hein.
Non, mais oui, ça rappelle des choses, quoi, l'odeur de la cire.
Et donc, quand elles ont lu Printemps silencieux, elles ont été sidérées, elles se sont dit, mais en fait, on est en train de tuer nos enfants, nos maris, et ce qu'on fait, c'est grave. Et donc, il y a eu cette prise de conscience de ce qu'elle faisait.
Et maman a un rôle important quand même, Maria, sa mère.
Alors, Maria, elle est formidable parce que c'est vraiment elle, on pourrait même lui consacrer un livre à elle, parce que donc elle naît à la fin du 19e siècle, c'est la fille d'un pasteur. Un pasteur qui veut que ses filles étudient, ce qui est quand même pas commun à cette époque-là. Mais ce pasteur, il meurt très tôt. Et c'est donc la mère de Maria qui prend les choses en main. Et c'est intéressant parce que finalement, Rachel Carson, elle est issue d'une lignée de femmes fortes, de femmes qui prennent en main les choses et qui assument la réalité. Et Maria, c'est une passionnée de musique. Elle rêve de faire carrière dans la musique. Alors carrière, peut-être qu'à cette époque-là, on ne se le dit pas, mais toute sa vie, c'est la musique. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si elle tombe amoureuse de Robert, le père de Rachel, qui est non seulement un bel homme, mais qui a une très très belle voix. Sauf qu'après son mariage, elle déchante. Cet homme finalement ne répond pas à ses attentes, parce que lui qui dit qu'il va faire fortune, mais en fait il fait jamais fortune et il assume pas la charge familiale. Et donc c'est elle qui prend ce rôle. Et puis surtout, je trouve que c'est très important parce que Rachel va vivre toute sa vie avec Maria, finalement, parce que Maria meurt en 1958, Rachel meurt en 1964, donc elle a pratiquement tout le temps vécu avec sa mère. Et quand Maria, qui donc initie ses enfants à la nature, elle amène toute la famille, donc comme vous l'avez raconté, à la campagne, et que cette petite fille de 8 ans à qui elle joue de la musique, à qui elle raconte des livres, elle lit des livres, avec laquelle elle part se promener dans la forêt, cette petite fille dit « je veux devenir écrivaine ». Ben maman, pourtant la famille est très pauvre, a priori c'est une idée un peu saugrenue. Maman dit ben, « oui, tu as raison, elle prend ça au sérieux et elle lui fait une sorte de promesse. Je vais t'aider à réaliser ton rêve. Moi qui n'ai ne suis pas devenue une musicienne, bah toi, tu vas devenir écrivaine. Ouais. Et ça, je trouve que c'est assez fabuleux.
Alors, c'est le combat de Rachel est le combat d'une femme, le combat de sa mère est aussi le combat d'une femme, et puis beaucoup d'autres femmes, mais Rachel Carson ne se présente pas comme une féministe.
Non, elle n'a jamais dit qu'elle était féministe, ouais. Je pense qu'elle n'en a jamais eu vraiment conscience. Elle n'a d'ailleurs jamais pris de position politique, on ne savait pas si elle était démocrate ou républicaine. De ce point de vue-là, elle est assez consensuelle, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas un seul article de journal dans la presse qui parle d'environnement sans citer Rachel Carson. Et pourtant, je pense que dans tout ce qu'a été sa vie, c'est-à-dire l'histoire d'une femme qui veut réaliser ses rêves, le premier rêve, c'est quand même d'écrire. Ouais. Elle réalise son rêve. Et puis, je pense aussi que c'est une femme qui a dû se protéger toute sa vie. D'abord parce qu'elle était pauvre et que chez les pauvres, on ne veut pas montrer qu'on est pauvre, donc il faut sauvegarder les apparences. En plus, après, elle s'est imposée dans un monde d'hommes, celui de la science, donc il fallait quand même rester à sa place, être la femme qu'on attendait que vous deviez être. Mais elle n'a jamais, même quand elle étudie, elle fait des études, mais ce n'est pas pour devenir une bonne épouse. Elle, son ambition, ça n'a jamais été une bonne épouse.
C'est une part de féminisme à cette époque-là, de penser,
pour
de
moi,
penser comme
pour
ça.
Pour moi, je pense que les femmes d'aujourd'hui doivent se réclamer de Rachel Carson.
Une écoféministe sans le savoir, quelque part. Hein.
Oui.
France Inter. Affaires sensibles.
Isabelle Colomba, je rappelle que vous êtes l'autrice d'une biographie de Rachel Carson, intitulée Rachel Carson, le monde doit savoir, et il a su avec ce livre Printemps silencieux, qui est aussi en creux un portrait du modèle ultra-productiviste de l'agriculture américaine, et qui a fortement influencé nos modèles français et européens. Est-ce que finalement, plus de 60 ans après la publication de Printemps silencieux, ce n'est pas l'industrie chimique qui a gagné la bataille? Je vous dis ça parce qu'en France, on est en pleine actualité, on s'apprête à légaliser de nouveau les néonicotinoïdes de façon provisoire pour certaines cultures. Je pense à la betterave, alors provisoire, probatoire, peu importe. C'est nicotinoïdes qu'on a poussés par la porte reviennent par la fenêtre.
Ouais, c'est toujours un peu la même histoire et c'est vrai que on peut penser que l'industrie chimique a gagné, mais en lisant Printemps silencieux, d'ailleurs, il faut le dire, hein, si vous n'avez jamais lu Printemps silencieux, on dit que c'est un très beau texte, mais c'est aussi un texte effrayant. Mmh. C'est-à-dire que vous êtes dévasté à la fin du livre parce que vous dites, en fait, tout ça, on le sait depuis longtemps. On sait qu'il y a des polluants éternels, on sait tout ça, et pourtant, rien ne se passe, rien ne change. Les gouvernants devraient se rendre compte de la responsabilité qui est la leur. Et c'est justement cette responsabilité qu'avait compris Rachel Carson, qui n'avait pas d'enfant elle-même, mais elle se sentait une responsabilité pour les générations futures. Et parce que ces produits, ils ont des conséquences, pas seulement là, dans les années qui viennent. Dans les siècles qui viennent. Donc c'est quand même assez décourageant d'un certain côté. Mais moi, il me semble que de toute façon, nous les citoyens, on n'a pas le choix. Parce que si on dit que l'industrie chimique a gagné, on arrête tout, quoi. Parce que biocides, tueurs de vie, donc on est obligé. Et on est dans une situation où une minorité qui a l'argent impose ses choix à des gouvernements qui ont choisi de s'incliner, en fait. C'est exactement ça. Et ce rapport de force, il n'est pas favorable à ceux qui défendent la vie en ce moment, c'est sûr. Mais il y a des tas de gens qui continuent à le faire. Et nous, ici, on a les moyens quand même de le dire, de résister. Il faut voir que dans d'autres pays, moi je pense par exemple aux pays africains qui n'ont pas les mêmes budgets que nos gouvernements. Là, on est en train de leur vendre un business vert, hein, pour leur dire que on va les aider à lutter contre la faim. Et finalement, en proposant des solutions qui, à long terme, on le sait, ne sont pas les bonnes.
Alors quand même, mauvais présage, on parlait d'une certaine idée de l'Amérique, le président des États-Unis actuel, Donald Trump, est ouvertement climato-sceptique, il considère que le dérèglement climatique est un canular, carrément. Est-ce qu'il est en train de détruire tout ce qui a été péniblement mis en place pour empêcher la destruction de la nature depuis l'apparition de Printemps silencieux ?
Le président américain, il est dans un déni de la réalité. C'est-à-dire que pour lui, pas seulement en matière d'environnement, d'ailleurs, il est dans un refus de la science tout court, et pour lui, la vie se résume à un business. Donc, Rachel Carson, c'est vraiment l'anti-Trump. C'est le refus de l'arrogance, c'est le refus de la domination, le refus de la prédation. Mais en même temps, si on regarde un peu en arrière, on ne peut pas dire que les présidents américains qui ont précédé Trump aient été quand même très actifs en matière d'environnement. Et même si on se contente aussi de regarder Trump, il ne faut pas oublier de nous regarder, à nous, les Européens, parce que finalement, depuis des années, les budgets pour la recherche sont en chute libre. Depuis 20 ans, en France, il y a un sous-investissement de la recherche, il y a une situation très précaire pour tous les jeunes chercheurs. Donc ça, c'est la réalité. En 2024 et 2025, on a coupé encore drastiquement dans les budgets de la recherche. Et puis, quand vous regardez aussi au niveau européen, en fait, les budgets consacrés à la recherche sont toujours en dessous de ceux des États-Unis, même après les coupes de Donald Trump. Donc ça donne quand même une idée. Regardez Donald Trump, d'accord, mais on peut se regarder nous. Et par exemple, la France a choisi complètement d'acheter toutes les technologies numériques et de pas du tout investir dans ce domaine. Ce qui est quand même, on peut s'inquiéter parce que le numérique prend toute une place très importante dans nos vies.
Si le cancer ne l'avait pas emporté si jeune, hein, à 57 ans, Rachel Carson aurait entrepris une autre recherche d'ampleur. Elle avait l'intuition qu'il fallait alerter sur le réchauffement des océans. Vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, vous en dire plus, ce que je peux dire, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, vraiment, les océans, c'est vraiment un objet de recherche pour toute la recherche scientifique. Et dès les années 40-50, Rachel, parmi toutes les études qu'elle lit, elle lit effectivement certaines études qui montrent qu'il y a un réchauffement des océans avec une migration de certaines espèces vers le nord. Et ça allumait la puce à l'oreille. Elle se dit qu'après le livre sur les élixirs de mort, comme elle appelait les biocides, elle s'intéressera à ce sujet parce que finalement, c'est une autre conséquence de l'activité humaine sur l'environnement et que pour elle, ça l'intéresse de documenter ça et de peut-être sonner à nouveau l'alerte sur ce sujet.
Et puis, dernière chose, elle vulgarise. Ça, c'est important quand même pour la prise de conscience.
Oui, c'est très important parce que Rachel Carson, elle avait quand même ce regard vis-à-vis des plus jeunes et des générations futures en se disant que ce qui est important, c'est par exemple pour les enfants de les apprendre à s'émerveiller de l'environnement pour les amener plus tard à protéger la nature qui les entoure. Et donc, on peut se dire qu'aujourd'hui, cette vulgarisation, elle est un peu en berne parce que c'est à partir de l'école qu'on devrait apprendre aux enfants tout ça.
Bien sûr. Donc, elle nous a éveillés sur le danger des biocides. Je m'arrête sur le mot biocide. Cide, ça veut dire tuer. Hein, c'est fixe. Oui. Tuer bio, ça veut dire tuer la biodiversité. Grave. Merci en tout cas.
Merci à vous.
Merci Isabelle Colomba. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Rachel Carson, lanceuse d'alerte sur les biocides, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Élise Christophe.